Bonne nuit sur France Inter.
Il est 2h, les informations, François Breton. C'est l'une des conséquences de la crise immobilière. Le promoteur Nexity avait annoncé un plan social alors que le nombre de réservations de logements neufs a baissé de près d'un tiers en 2023. Hier, il en a donné les détails. Il a annoncé la suppression de 502 postes, le plus grand plan social du genre dans le secteur. L'immobilier qui va mal, mais l'aviation qui, elle, s'en sort bien. Le bénéfice d'Airbus s'envole au premier trimestre. Il atteint 595 millions d'euros en hausse de 28%. Le constructeur aérien poursuit sa remontée en cadence sur ses chaînes de production mises en difficulté par le Covid. Il a produit entre janvier et mars cette année 142 avions commerciaux contre 127 l'an dernier. Stocker du carbone dans des puits de pétrole en France, c'est ce que va... Une expérimentation va être lancée l'an prochain, annonce le ministre de l'Industrie Roland Lescure. Il doit annoncer ce vendredi un appel à projet lors d'une visite à Sens, alors que les industriels vont devoir diviser par deux leurs émissions de gaz carbonique d'ici 10 ans. Mais le stockage doit rester une solution de dernier recours, prévient le ministre, qui pousse les industriels du secteur les plus polluants à s'électrifier ou bien à passer à l'hydrogène pour remplacer le charbon. La France, premier producteur de vin l'an dernier, pas forcément une très bonne nouvelle, c'est parce que les récoltes ont été catastrophiques au niveau mondial, notamment en Espagne et en Italie. L'Organisation internationale du vin pointe du doigt les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies, le gel précoce ou des pluies favorisant inondations et maladies dans les vignes. L'université de Columbia à New York, visée par une plainte pour violation des droits civils après l'arrestation d'étudiants pro-palestiniens la semaine dernière. Plainte déposée par Palestine Legal, association qui défend le droit des Américains de s'exprimer au nom des Palestiniens. Les manifestations sur les campus américains se multiplient depuis ces arrestations à Austin, Los Angeles, Boston ou encore Atlanta, où la police a utilisé des agents chimiques irritants pour déloger les manifestants hier. En France, après une expulsion déjà la nuit dernière, des étudiants de Sciences Po Paris occupent cette nuit une nouvelle fois un bâtiment du campus à Paris. La bande de Gaza, bombardée encore une fois hier par l'armée israélienne, les États-Unis annoncent de leur côté la construction d'un port temporaire et d'une jetée au large de Gaza pour permettre la distribution d'aide humanitaire. L'installation sera prête début mai, affirment les autorités américaines. Il est soupçonné d'avoir voulu s'emparer de terres publiques en Ukraine. Le ministre de l'Agriculture ukrainien a annoncé hier sa démission après l'ouverture d'une enquête de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Elle estime que Mykola Solsky a récupéré 2500 hectares dans le nord-est de l'Ukraine d'une valeur de 7 millions d'euros. Aya Nakamura réalise un doublé. La chanteuse rappeuse française a remporté hier soir, pour la deuxième année consécutive, la flamme de l'artiste féminine de l'année. Les flammes, cérémonie de récompense pour les musiques urbaines. Le rappeur Gazo obtient le trophée côté masculin. Une cérémonie marquée par une prestation du rappeur Medine accusé d'antisémitisme après un tweet l'an dernier. Sur scène, hier soir, il a rendu hommage à tous les enfants palestiniens morts sous les bombardements à Gaza. D'autres rappeurs ont annoncé hier eux avoir rempli le Zénith de Paris pour un concert en soutien à une ONG qui intervient dans les territoires palestiniens. À l'affiche de cette date, PLK ou l'artiste franco-algérien Soul King. Les 6800 places ont donc été vendues pour le concert qui a lieu le 22 mai prochain.
Merci de passer la nuit avec France Inter. Voici maintenant Zoom Zoom Zen.
Plein emploi.
Je pense que des gens qui ont fait des années d'études et qui n'arrivent pas à trouver des emplois corrects n'ont pas forcément envie d'être dans le plein emploi en se retrouvant serveur dans un bar. Donc ouais, le plein emploi, ça me paraît très utopiste.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, décrypter notre époque sans oublier d'en rire autour d'un mot qu'on entend partout sans forcément toujours le comprendre. Aujourd'hui, zoom sur un phénomène qu'autour de cette table, seul Cyril Lacarrière a connu en vrai durant les 30 Glorieuses, le plein emploi. À l'époque, à Porto Combo, il suffisait de traverser la rue pour devenir un jour agent de sécurité, le lendemain patron de vidéoclub ou même journaliste à la faveur de vos envies. Le plein emploi, c'était plus qu'un fait économique, c'était l'insouciance de toute une génération, écrit Cyril dans son dictionnaire amoureux de la France de Pompidou, préface de Pascal Praud.
Oh non.
Pendant les années suivantes, marquées par la flambée du chômage, le plein emploi est devenu un horizon inatteignable. On en rêvait, les politiques en parlaient, mais on commençait à se dire qu'on ne le connaîtrait plus jamais. Puis finalement, nous voilà en 2024 à nouveau aux portes du plein emploi, une notion qui revient beaucoup ces derniers temps dans la bouche de nos dirigeants. Mais est-ce vraiment vers ce plein emploi que doivent converger nos efforts? Le plein emploi est-il forcément la panacée? Est-ce que, comme dans les 16 dafalgans codéinés que j'ai pris pour présenter cette émission, le plein emploi peut avoir des effets indésirables? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Christine Herrel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Christine, vous êtes économiste, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Économie du Travail et de l'Emploi. Vous avez publié en 2020 Les Politiques de l'Emploi aux éditions des Presses Universitaires de France et vous avez participé aussi à l'ouvrage collectif Que sait-on du travail, publié en 2023 chez Sciences Po. Et comme justement vous en savez beaucoup sur le travail, vous allez nous décrypter cette notion de plein emploi, juste le temps que je vous présente mes camarades. Et il fallait que ça arrive un jour, la précieuse paire, le saint binôme, l'alliance toujours fertile du snobisme parisien et de la bonhomie normande, pour la première fois vole en éclats. Cet après-midi, en effet, Quentin ne peut être des nôtres aujourd'hui, des raisons personnelles qui n'ont, je rassure ses fans, rien à voir avec ses démêlés récents avec le fisc. Et c'est pourquoi, pour le remplacer, j'ai pensé à une personne formidable qui m'a invité dans son podcast l'autre jour. Contrairement d'ailleurs, je pose ça là au passage, à Rosa Burstein qui bosse avec moi depuis deux ans, qui m'a jamais invité dans son podcast Les mecs que je veux ken. De là, imaginez que peut-être c'est parce que je ne fais pas partie des mecs qu'elle veut ken. Il n'y a qu'un pas que je cherche encore le courage de franchir. En tout cas, voilà pourquoi ce n'est pas elle qui remplace Quentin, mais Marie Cahut. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter, Marie, pour remplacer comme ça au pied levé notre cher Quentin. Marie, vous êtes ce qu'on appelait plutôt dans les années 90, une femme Barbara Gould, tout à la fois comédienne, journaliste, podcasteuse. Votre curiosité est insatiable. Je signale d'ailleurs votre dernier podcast, Marie. Mais je signale, le podcast est très intéressant.
Oui,
Marie et les œufs en neige. Il n'est pas question de faire concurrence à Régis Gaudry puisque ça parle congélation d'ovocytes. Le meilleur épisode, c'est le 3, hein, je vous le dis parce que je suis dedans. Et donc, Marie, c'est vous qui êtes partie aujourd'hui à la rencontre des gens pour les interroger sur notre notion du jour, le plein emploi.
Oui, et je dois dire que j'ai un peu le tournis parce que pour être sûre de ne pas dire de bêtises, je suis retournée voir mes cours d'économie et je pourrais jurer qu'ils sentaient le gin tonic. J'ai fait mes études à Londres et ma curiosité déjà insatiable m'a poussée à étudier la coutume locale du gin and tonic. Du coup, j'ai comme une gueule de bois fantôme, je crois. C'est peut-être aussi parce qu'en allant dans la rue, j'ai eu quelques réponses assez étourdissantes, vous verrez.
Alors Marie, ce matin, en arrivant au bureau, vous avez eu le bonheur de découvrir une délicate attention de Quentin, qui sur son bureau, vous avez sculpté dans une feuille à quatre un magnifique avion sur lequel il avait écrit « Bienvenue Marie ». Vous vous êtes dit que décidément l'accueil dans cette équipe était formidable, au-delà même de ce que vous pouviez imaginer, un sentiment de bien-être qui a duré jusqu'à ce que vous disiez bonjour à Manon Mariani et qu'elle vous réponde « Mais t'es qui toi ?» Je te pince, tu touches mes gerblés, je te pourris ta chronique. C'est là que je suis intervenu pour dire ce que je dis toujours dans ces cas-là. Non mais tu vas voir, la Marianoche, faut apprendre à la connaître. Bonjour Manon.
Bonjour, bonjour à tous. Mais pour qui vous me faites passer?
Vous êtes ravis de bosser avec Marie.
Bien sûr, évidemment.
Super bien passé aujourd'hui. Et quelle chance pour Marie d'assister en direct à cette rubrique de référence sur les réseaux sociaux qui est la veille sanitaire au programme aujourd'hui.
Certains masculinistes ont trouvé un nouveau loisir, aller dans des pays étrangers pour rencontrer des femmes qu'ils estiment moins woke que dans leur pays natal. Ils se surnomment les Passport Bros et ils en ont marre des féministes, les pauvres chats. Ils documentent leur mouvance sur TikTok et vous allez voir, comme d'habitude avec eux, c'est pas très réjouissant. Rendez-vous tout à l'heure dans ma veille sanitaire pour les découvrir et surtout les éviter.
Et vous, on croit toujours qu'on a touché le fond des masculinistes et on découvre toujours plus. En dessous une couche encore cachée.
Ah bah c'est eux, faut leur dire. À eux,
Ils sont très forts. Vers 16h30, nous verrons que si on se rapproche du plein emploi, c'est aussi parce qu'on a l'art d'inventer de plus en plus de métiers. Vous connaissez le rhumatologue, l'addictologue, mais connaissez-vous l'élaïologue?
Non,
et là nous partirons à sa rencontre dans le Zoom Zoom Test. En fin d'émission, c'est Yann Marguet qui nous rejoindra. Mais on va commencer par une question assez simple finalement. Christine Herrel, à vos côtés dans le studio, il y a 4 CDDU, enfin même plutôt 3 CDDU et une pigiste en l'occurrence. Et donc 4 emplois qui peuvent être qualifiés de précaires. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire qu'on va atteindre le plein emploi si on a beaucoup d'emplois précaires?
Si, évidemment, c'est plus facile avec des emplois précaires ou avec des emplois à temps partiel. Donc on peut avoir un mauvais plein emploi, on peut avoir un plein emploi avec une mauvaise qualité de l'emploi.
Et ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, enfin, ça sera l'objet de l'émission.
Voilà, on n'en parle pas assez, il faut en parler plus, effectivement, de ces enjeux de qualité.
Face à vous, Christine, il conserve encore dans son grenier des reliques du plein emploi. Notamment ce t-shirt « Les jeunes avec Pompidou », « Pom Pom Pidou », dont il avait si souvent hurlé le slogan quand il militait pour la construction d'une 4 voies sur le canal Saint-Martin.
J'ai voulu me le racheter.
Ouais, ça va,
il est vintage.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Cyril, vous qui avez le recul historique nécessaire, racontez-nous le plein emploi, d'où ça sort?
Connaissez-vous Arthur Cécile Pigou?
Non, et c'est un tort, puisque c'est à cet économiste anglais qu'on doit l'apparition du terme plein emploi. Nous sommes en 1913 et Pigou écrit ceci, je le cite, « Le plein emploi existe toujours, ce terme étant interprété au sens large comme l'emploi de tous les gens désireux d'être salariés, moins ceux qui sont empêchés de l'être en raison d'une insuffisante mobilité et autres frictions semblables. » Fin de citation. Mais s'il est le premier à utiliser ce mot, ce n'est pas pour ça qu'Arthur Pigou va se faire un nom dans le bottin mondain des économistes, mais parce qu'il est le fondateur de l'économie du bien-être. Et parce qu'il est l'inventeur de la taxe Pigou. Et qu'est-ce que c'est la taxe Pigou ? Pour vous la faire simple, c'est le principe du taxeur-pollueur. Je m'écarte du sujet, j'en reviens au plein emploi. Si Pigou a été le premier à utiliser ce terme, c'est à un autre qu'on doit sa popularité.
Mais vous avez fait monter le suspense.
Oui, je sais, c'est terrible. Oui.
Qui est donc, Cyril ?
Un autre économiste anglais qui fut le collègue de Pigou à l'université de Cambridge. Il s'agit ni plus ni moins de l'économiste le plus influent du XXe siècle. Pas François Langlais, mais John Maynard Keynes. Et c'est dans les années 30 qu'il définit un peu plus clairement ce concept de Pigou. Pour Keynes, le plein emploi correspond à une situation où le chômage ne concerne que les personnes entre deux emplois et celles qui viennent d'entrer sur le marché du travail. Il ajoute que pour que la notion de plein emploi ait du sens, il faut qu'existe la possibilité d'un chômage involontaire. Ce plein emploi sera reconnu officiellement dans la période d'après-guerre, officiellement reconnu peut-être, mais est-ce que tout le monde s'est mis d'accord ? Oh que non, et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que le plein emploi ? Comment y parvenir ? Est-ce que c'est un objectif réaliste ? Est-ce que c'est aussi devenu de la com politique ? Quel pays a effectivement atteint le plein emploi ? Et qu'est-ce que ça changerait qu'on y soit, nous, en France ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Christine Herel, on va commencer cette émission par quelque chose qui, je crois, vous tient à cœur, la définition du plein emploi, parce que, ou plutôt sa non-définition, car je crois qu'à vos yeux, il n'existe pas de définition vraiment claire. Le concept peut être assez large.
Oui, et puis surtout, alors on peut effectivement prendre une première perspective qui est un petit peu celle que vous avez commencé à esquisser, c'est-à-dire si on se situe dans l'histoire de la pensée économique, il y a eu plein de définitions du plein emploi. Donc effectivement, celle des néoclassiques, donc Pigou, vous avez cité, qui est assez proche finalement sur le fond de celle de Keynes, dans la mesure où l'idée centrale, là, c'est on est au plein emploi si tous ceux qui veulent travailler au salaire qui est en vigueur à ce moment-là travaillent. D'accord. Donc du coup, en fait, le principe, c'est qu'on n'a pas, à ce niveau d'emploi, on n'a pas de chômage qui serait du chômage involontaire, sauf effectivement les temps de recherche d'emploi. Voilà, c'est ça qui est évoqué en fait avec ce concept. Et après, donc ça, c'est la première grande définition, on va dire. Après, les économistes en question, Keynes et les néoclassiques, ne sont pas du tout d'accord sur les causes du fait qu'on ne se retrouve pas au plein emploi. Donc ils n'ont pas du tout la même vision, on pourra y revenir, de ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Par contre, sur le concept, on est sur quelque chose qui est relativement proche. Après, effectivement, les économistes anglais, toujours c'était des anglais, ont davantage mis l'accent sur cette idée de le plein emploi, c'est quand il n'y a plus que le niveau de chômage incompressible qui correspond au temps de recherche d'emploi, etc. Voilà, il faut du temps pour soi-même chercher un emploi, pour les entreprises, pour mettre leurs offres d'emploi, etc. Voilà. Et donc, on a un autre économiste qui a beaucoup insisté là-dessus, qui est Beveridge. Et donc, Beveridge, lui, estimait du coup que le plein emploi, c'était quand on était à peu près à 3% de chômage, que le minimum en dessous duquel on ne pouvait pas descendre, c'était à peu près 3% de chômage. Voilà. Ensuite, on a eu effectivement toute la période de l'après-deuxième guerre mondiale, où pour la plupart des économistes, on était au plein emploi, effectivement, on était au plein emploi avec des taux de chômage autour de 5%, 4-5% dans la plupart des pays.
On appelait ça le plein emploi.
On disait qu'on était au plein emploi, effectivement. Alors attention, on était au plein emploi, mais avec quand même la majorité des femmes qui ne travaillaient pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas le même plein emploi que celui dont on pourrait parler aujourd'hui. Bah oui, le taux d'activité des femmes a doublé en France depuis les années 60. Donc on ne parle pas du tout du même monde. Voilà. Donc déjà, vous voyez, ça montre bien qu'il y a quand même des grandes différences et qu'on peut avoir... on a plein de définitions déjà chez les économistes du plein emploi. Après, sur les politiques, les statisticiens, tout ça, je pourrais y revenir. Mais...
Ah bah oui, et vous allez y revenir dans la suite de cette émission. On va marquer une première pause. Et j'en profite pour le clamer haut et fort, même si ça doit provoquer les rires narquois de Manon Mariani. Oui, j'aime le hip-hop. Voilà pourquoi on va écouter Notorious Big, Maze et Puff Daddy.
Avec le morceau Mon Money More Problème, incarnation du bling-bling des rappeurs des années 90, Notorious Big s'adresse au rageux qui lui envie son succès et son argent. Lui, il en rigole et il s'en vante. Et il a de quoi, puisque cette chanson a été un vrai tube. Elle est même considérée comme l'une des chansons les plus populaires de l'histoire du hip-hop, Mathieu. Il a eu la bonne idée d'utiliser ce sample. Le morceau iconique de Diana Ross, I'm Coming Out, et ça marche super bien. On écoute Notorious Big feat. Maze et Puff Daddy, More Mommy, More Problem.
Now, who's high, who's high? tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got blocks, who mostly Gucci down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee me and self call a level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. Call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a B.O. day. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down's fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap my cell and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that, catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, me and Mike's to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player, please, lyrically, nigga C, B-I-G-B, flossing, jig on the cover of Fortune, 500. Here's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Zizak, dangerous, on Trizak, leave your ass Pizzak.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
C'est un objectif qu'on nous présente presque comme naturel. Zoom aujourd'hui sur le plein emploi avec vous, Christine Herrel, économiste, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers. On essaye de comprendre taux d'activité, d'emploi, de chômage. Il y a beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'indicateurs. On parle souvent dans cette émission de surinformation. On a l'impression que certains se complètent, ok, mais d'autres se contredisent presque parfois. Est-ce qu'il y a un indicateur qui est plus pertinent que les autres en matière de travail ?
Non, malheureusement, pour faire un bilan, on est obligé de prendre l'ensemble. Ouais. Et quand on regarde effectivement la relation entre chômage, emploi et inactivité, il faut bien quand même regarder toutes les catégories pour comprendre ce qui se passe. Je vous prends un exemple. Si on a effectivement un taux de chômage faible, c'est pas forcément pour autant qu'on est dans une situation qui est une situation où tout est rose en matière d'emploi. On peut avoir beaucoup de gens qui sont en emploi, mais qui sont dans des emplois qui ne leur conviennent pas, où ils voudraient travailler plus. Donc on parle de sous-emploi, des gens qui sont à temps partiel et qui disent qu'ils voudraient travailler davantage. Donc déjà, là, voilà, on va avoir un bémol par rapport au faible taux de chômage. Et puis on peut aussi avoir des gens qui sont inactifs, mais qui voudraient travailler, en fait, et qui peuvent pas travailler parce qu'ils ont des problèmes de garde d'enfants, des contraintes de transport, etc. Différentes contraintes expériences qui font que finalement, ils vont pas aller sur le marché du travail ou qui sont découragés parce que ça fait longtemps qu'ils cherchaient un emploi et qu'ils trouvent pas. Voilà. Donc, du coup, faible taux de chômage, c'est pas si systématiquement quelque chose qui va être tout rose, quoi.
Et le plein emploi, lui, il est souvent considéré comme un objectif économique et social crucial par les pouvoirs politiques. C'est notamment le cas en France depuis la campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Vous pensez que c'est devenu une sorte de totem politique, le plein emploi, mais que finalement, il faut pas le chercher coûte que coûte?
Bah, je pense que c'est un peu devenu un totem politique parce que ça revient régulièrement, en fait. On avait eu aussi François Hollande avec l'inversion de la courbe du chômage, et puis il a jamais réussi, entre guillemets. En fait, ça s'est inversé, mais trop tard, et donc du coup, politiquement, il a pas réussi à en tirer les fruits. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où le taux de chômage a plutôt tendance à remonter un petit peu, et malgré tout, le gouvernement s'acharne à parler de plein emploi. Alors, je pense que s'il le fait, c'est aussi parce que ça permet de justifier des réformes qui sont supposées, effectivement, permettre de conduire au plein emploi. Donc du coup, il y a une utilisation politique du concept de plein emploi. C'est pas juste quelque chose qu'on mesure et qu'on observe.
C'est vrai qu'on manipule les foules en brandissant ce terme de plein emploi.
Alors, c'est quelque chose qui permet de justifier certains types de mesures de réforme du marché du travail en disant, voilà, on n'y arrive pas en France alors que d'autres pays y arrivent. Et pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'on n'a pas le bon système d'assurance chômage ou les bonnes institutions du marché du travail. Donc on va faire des réformes. Alors qu'il faut aussi se poser la question, effectivement, de qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi? Effectivement, et de la qualité aussi des emplois qu'on crée. Or, vous avez des pays où vous êtes certes au plein emploi en termes de taux de chômage, mais où il y a beaucoup de sous-emplois, comme je l'évoquais tout à l'heure. Bon, par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, ou le cas de la Grande-Bretagne, ou le cas des Pays-Bas, il y a beaucoup de temps partiel, notamment des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, ne peut pas être considéré comme étant quelque chose qui est tout positif, quoi. Donc voilà. Donc il y a... Je pense qu'il faut regarder tout un ensemble d'indicateurs, effectivement, et se méfier d'un usage trop simpliste, en fait, du terme de plein emploi.
Vous parliez des différentes définitions du plein emploi, mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi la définition? C'est quoi l'objectif du gouvernement quand il parle de plein emploi?
L'objectif, il affiche ce qui est dit régulièrement, c'est quelque chose qui serait autour de 5%, en fait, qui correspond à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour les économistes, l'idée, c'est que le chômage frictionnel, celui qui correspond juste au délai pour retrouver un emploi, etc., ce serait entre 3 et 4%, quoi. Ça dépend après de la taille des pays, c'est un peu plus quand on est un grand pays. La France, c'est un grand pays. Donc du coup, on peut dire 4-5% de chômage, ça serait le niveau du plein emploi en France. Donc je pense que le gouvernement, ce qu'il a en tête, c'est cette ordre de grandeur-là. C'est tendre vers
combien,
les 5%, 7,5%. Du coup, on a encore une grosse marge.
Vous pensez que c'est atteignable, le plein emploi en France? Je vous demande pas si c'est souhaitable pour le coup, puisqu'on en discute, mais est-ce que c'est atteignable, c'est faisable?
Oui, je pense que c'est atteignable, mais pas forcément tout de suite, pas forcément dans les conditions dans lesquelles on est actuellement, parce qu'on est quand même dans une situation à l'échelon international qui est une situation qui n'est pas favorable. Il y a beaucoup de crises, de tensions, etc. Donc je pense que oui, c'est atteignable, mais pas nécessairement à un horizon qui est un horizon de très court terme. Et puis il y a les aspects démographiques qui jouent aussi et qui jouent en faveur du plein emploi, puisqu'il y a plutôt une baisse de la population active. Avant, en France, on avait une tendance à l'augmentation de la population active. Là, ça va aller plutôt dans l'autre sens. Il y a quand même moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et ça va faire baisser le chômage. Mais c'est des choses qui demandent du temps. Ce ne sont pas des phénomènes qui se produisent du jour au lendemain.
Et vous, le plein emploi, vous y croyez? Marie Cahut est allée vous poser la question. Et parce que j'appellerai la magie de la radio, nous allons écouter Marie, ce qui est à la fois votre premier et votre deuxième micro-trottoir à l'antenne de France Inter. Je n'en dis pas plus, un magicien ne dévoile jamais ses tours. Mais vous êtes donc allée à la rencontre des passants.
Oui, et vous le disiez, ça se vérifie, la définition du plein emploi n'est pas la même pour tout le monde.
Voilà, plein emploi, ça veut dire travailler à plein temps, c'est ça?
Plein emploi, travailler à fond.
Le plein emploi, c'est quand tout le monde a un emploi.
Pas de jugement, c'est un sujet complexe. Du coup, j'ai décidé d'aller à la source et de me poster devant Pôle emploi, enfin, devant une agence France Travail. La plupart des gens qui en sortent n'ont pas le temps de me répondre, jusqu'à ce monsieur de 48 ans qui pense qu'on nous ment.
Je pense que c'est entretenu, hein, la notion de chômage.
Mais par qui?
Ça, c'est par le système en haut, hein, je pense que c'est une mécanique, quoi, qui sert un peu le système.
Mais alors pourquoi le président, il dit qu'il veut arriver au plein emploi alors?
Ouais, il dit. Ce qu'il dit et ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait dit. Donc, les promesses, on dit les promesses, c'est comme une boule de neige. C'est facile à rouler, mais c'est difficile à tenir.
Beaucoup de questions se bousculent en moi.
Je connaissais pas ça.
Notamment, qu'est-ce que rouler une promesse?
Oui,
alors, je pars au Buttes-Chaumont pour méditer le sujet et je croise vite un petit monsieur avec une gavroche en tweed qui semble très à cheval sur les taux.
On a un taux de chômage anormalement haut par rapport à d'autres pays. Nous, on est à 7 et des poussières.
La réforme de l'assurance chômage doit nous sauver de tout ça, dit-il. Ah. Alors, je lui demande pourquoi.
On peut supposer que des gens recherchent pas tellement l'emploi. Et donc, en diminuant les avantages des chômeurs, Peut-être que c'est une solution pour diminuer le nombre de chômeurs. Mais la meilleure solution, c'est la croissance.
Bon, en le quittant, je rencontre Arnaud, assis à la terrasse d'un café.
Plein emploi. L'objectif du gouvernement, la réduction des droits chômage, potentiellement, pas forcément dans le bon sens, selon moi.
Arnaud n'est donc pas d'accord avec le monsieur à la gavroche.
Parce que c'est un droit, le chômage, donc c'est pas de la solidarité, et que on cotise pour ça, et quand on a des droits, peu importe la légitimité qu'on peut avoir, peu importe l'équité qu'il peut avoir dans les différents droits, je pense pour moi que c'est toujours une mauvaise chose de nous spoiler de plus en plus de ces droits.
Pas du tout d'accord. Alors après lui, je croise un couple à vélo. Il rit quand je dis plein emploi. Et puis timidement, la jeune femme se lance.
Je pense qu'on a un manque de valorisation de certains emplois et d'autres qui sont sous-payés. Donc je pense que des gens qui ont fait des années d'études et qui n'arrivent pas à trouver des emplois corrects n'ont pas forcément envie d'être dans le plein emploi en se retrouvant serveur dans un bar. Donc ouais, le plein emploi, ça me paraît très utopiste.
Son mec...
Et vous avez un travail ?
Non, je suis au chômage.
C'est pour ça que vous riez.
Oui.
Son mec est au chômage aussi. Il monte son entreprise, il espère en vivre. En rentrant, je croise ce vieux monsieur adorable, tout sourire, cheveux blancs impeccables. Je me dis, allez, un peu de douceur. Ça lui dit quoi, à lui, le plein emploi ?
Ah, moi, ça me dit rien du tout, parce que je suis retraité, alors. Ça ne m'intéresse pas.
Ça vous intéresse pas pour les autres ?
Oh à la rigueur, mais bon, sans plus, quoi.
Bon voilà, je pense qu'on comprend ma petite gueule de bois.
Alors vous apprendrez, Marie, qu'un complètement à la rue se termine toujours soit par une rime poétique, soit par un aphorisme philosophique. Hein. C'est bon, c'était votre premier micro de retard, donc on peut...
Vous êtes gentil quand même avec les fins de canton. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, d'appeler ça aphorisme philosophique, oui, c'est vrai que ça va un peu loin. Christine Herrel, vous avez écouté ses réactions dans la rue. Ce monsieur qui pense qu'une réforme de l'assurance chômage, c'est un bon levier pour atteindre le plein emploi. Vous partagez son point de vue ?
Alors ça fait débat, ça n'est pas du tout qu'un objet de consensus parmi les économistes. Donc effectivement, certains pensent que c'est quelque chose qui est un moyen donc, de réduire en fait la part du chômage qui serait du chômage volontaire, qui serait basé sur un choix, le fait de ne pas travailler parce que vous avez des allocations qui vous permettent effectivement de rester chez vous tranquillement.
Pardon, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Est-ce qu'on sait quelle est cette fameuse part de chômage volontaire ?
Ah ben non, c'est impossible de l'évaluer en réalité. C'est quelque chose sur lequel on peut pas mettre un chiffre. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que quand on a déjà fait des réformes de l'assurance chômage dans le passé, qu'il y a eu des évaluations de ces réformes, on sait que les effets des réductions de droits sont très limités. Il y a un petit effet positif sur des retours à l'emploi, mais ça ne va pas révolutionner les choses et faire baisser de manière très importante le chômage. Et surtout, ça peut aussi pousser les gens à reprendre des emplois qui ne leur conviennent pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est un peu la question. Donc, effectivement, quand on a fait des études, on n'a pas envie d'être serveur dans un café. Donc, si on est obligé, parce qu'on n'a plus de revenus, on va peut-être le faire pendant un certain temps, mais on ne va pas être bien. Donc, du coup, on ne va pas y rester. Et finalement, on va revenir au chômage. Et donc, voilà, on peut avoir des phénomènes plutôt donc de récurrence au chômage quand on a une mauvaise assurance chômage qui ne protège pas assez les gens.
Manon.
Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, disait que l'ambition du plein emploi doit aller avec celle du bon emploi. C'est quoi le bon emploi ?
Alors ça, pour le coup, je suis d'accord, mais il faut définir sur le principe, il faut effectivement dire ce que c'est qu'un bon emploi. Donc ce que c'est qu'un bon emploi, il y a plusieurs dimensions derrière. Il y a évidemment l'aspect rémunération, parce que ce que tout le monde dira quand on vous demande qu'est-ce qu'est un bon emploi, il y a un aspect de salaire. Ensuite, il y a aussi des aspects de temps de travail. Est-ce qu'on a un temps de travail qui correspond à la fois aussi à ses obligations par ailleurs familiales qui permet de concilier avec sa vie personnelle? Est-ce qu'on a des bonnes conditions de travail au sens pas dangereuses, pas trop pénibles, etc. Voilà, donc un bon emploi, c'est tout ça. C'est un emploi avec des bonnes conditions de travail qui correspondent, donc avec des horaires qui sont des horaires qui en tout cas correspondent à ce que les individus vont préférer, qui serait aussi un emploi qui donne accès à des formations avec des perspectives de carrière. C'est important, c'est pas juste aujourd'hui être
bien payé, etc. Mais donc chacun définit son bon emploi, en fait.
Alors, on peut fixer des critères comme on l'a fait. Moi, j'ai travaillé sur des critères de qualité de l'emploi. Donc, on peut les définir. On peut se donner une liste d'indicateurs qui permettent de définir de manière multidimensionnelle ce que c'est qu'un bon emploi. Donc, c'est possible de mesurer la qualité des emplois.
Faut-il courir après le plein emploi comme on court après le bonheur ? Qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement pour nous quand l'économie d'un pays atteint le plein emploi ? Réponse avec notre invitée, l'économiste Christine Herrel, juste après le Zoom Zoom Test spécial métiers les plus étranges du monde. Manon m'a dit qu'elle ne comptait faire aucun cadeau à Marie. La sororité Balek a déclaré impitoyable la Marianoche. La confrontation arrive juste après Yamé Bécane sur Inter.
Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi, j'ai pas ton élan.
N'écoute jamais les hantises qui jactent, n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quant à négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans cara, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, tout me parle, pas de pas années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rambat assez, j'ai mes cessé. Je tourne la poignée, je frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Puis je cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Chant la décalé. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des paroles, des paroles en fer. Avec un cri, chant de l'enfer. Sur un gros fer. Bah ouais, chant la décalé. C'est dangereux, c'est mal. Je vois que des pas au départ en enfer. Avec un cri, chant de l'enfer. Sur un grand fer. La crainte a focalisé. La haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Ah. Chant avec Kali. Kali.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et si le plein emploi c'était comme l'amour, si on avait tort de le chercher à tout prix? On continue de zoomer sur la notion de plein emploi avec vous, Christine Herrel. Soyons un peu factuels. Alors là, je me suis trompé de lancement, ça m'arrive,
oui,
ça m'est jamais arrivé, mais c'est la première fois en 375 émissions. J'ai vu notre réalisateur paniquer en régie, effectivement je me suis trompé de feuille tout simplement. Alors je reprends, 3, 2, 1... La défaite, on finit par s'y faire. C'est l'humiliation qui est difficile à encaisser, disait Quentin dans une note vocale envoyée à Marie pour la préparer psychologiquement à ce moment de l'émission qu'on appelle le Zoom Zoom Test. Car oui, Marie, chaque après-midi vers 16h30, on joue autour de notre thème du jour. Et aujourd'hui, plutôt qu'un quiz plein emploi, je vous propose un quiz plein d'emplois. À la découverte des métiers les plus incongrus, dont l'existence même nous permettra peut-être d'atteindre ce fameux plein emploi. Marie, je vous demanderai d'être impliquée et compétitrice. Je vous rappelle le speech que nous a fait ce matin Jonathan Curiel, le nouveau directeur des programmes de France Inter.
Les gens qui bossent dans cette boîte ont un objectif, devenir foutrement riche. C'est tout. On n'est pas là pour se faire des amis. On n'est pas là pour sauver les lamentins.
Et non, Marie, vous n'êtes pas là pour sauver les lamentins, vous êtes là pour gagner. Attention, top. J'ai cité ce métier en tout début d'émission et depuis, vous n'arrivez plus à vous concentrer sur rien. Vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à vivre. Vous brûlez de savoir ce qu'est un élaïologue. Et là, je vous comprends car la réponse à cette question va changer vos vies. Marie, Manon, selon vous, un élaïologue, c'est un spécialiste de l'ail, un spécialiste de l'élagage ou un spécialiste de l'huile?
C'est, ouais. Bravo Marie.
Je suis sûre que c'est ça. C'est une bonne réponse de Marie qui a eu effectivement bienvenue en Provence. C'est là que se trouve, en tout cas, que se forment la plupart des élaïologues, les sommeliers de l'huile. Du processus de récolte à la mise en bouteille, ils supervisent chaque étape de production pour garantir des huiles de qualité. Heureusement, Quentin n'est pas là, on aurait eu droit à une imitation de Zebda. Et là vraiment, Dieu sait ce que ça aurait donné, certainement un moment bien cringe, comme vous dites Manon.
Avec sa tasse cigale aussi.
Probablement, c'est vrai. Mais attention, autre métier étonnant, je vous livre la fiche métier sur le site du Parisien qui indique possibilité d'évolution nulle et rémunération souvent inexistante.
Oula.
Engageant. D'après vous, quel est ce métier pourtant très important pour la collectivité? Goûteur d'eau du robinet? Contrôleur de tri sélectif, le type qui vérifie que vous n'avez pas confondu la poubelle jaune et la poubelle verte? Ou testeur d'égout, le type qui vérifie que le niveau de bactéries dans les égouts est pas trop inquiétant?
Ah, c'est...
Pour vous, il y a un type qui descend dans les égouts. Il descend physiquement lui-même, il y va, il met sa combi, il descend dans les égouts. Non, bonne réponse de Manon Mariani. Devenez goûteur d'eau du robinet. Alors évidemment, c'est moins glamour que œnologue à la Revue des Vins de France, c'est moins bien payé aussi, puisque c'est quasiment bénévole, mais goûteur d'eau du robinet, c'est toujours mieux en ce moment que goûteur d'eau chez Nestlé.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde?
Non, c'est Perrier. Puisque, oui, je vous rappelle que Nestlé vient de détruire 2 millions de bouteilles de Perrier dans lesquelles on avait retrouvé des bactéries d'origine fécale. Comme quoi, plus que jamais, Perrier, c'est fou. Oh. Mais attention, justement, il y a des jobs encore plus fous que goûteur d'eau. Par exemple, ce métier proposé par la société britannique First Choice, qui propose de vous rémunérer 27 000 euros sur 6 mois, soit Manon.
Non, mais je sais pas, je suis nul en calcul mental.
En 4 500 euros par mois, presque autant que vous, Manon. La Marie est en train de se dire, on m'a sérieusement entubé, moi. Alors rassurez-vous, personne ne vous a entubé, c'est une blague. Mais vous en doutez, une telle somme, 4 500 euros mensuels, se mérite. D'après vous, quel est ce métier? Inséminateur de juments, testeur de toboggans ou sexeur de poussins?
Non, assez, sexeur de poussins.
Ça vous parle, ça? Marie.
Inséminateur
de juments. Pour 25 000, vous y allez. Vous mettez la main et tout, vous y allez avec le gant. On y va, on insémine. Non, aucune bonne
c'est
réponse.
B, ouais.
C'est la réponse, mais c'est trop tard. Maintenant, je peux
oui,
pas
bah,
vous...
Oui,
non, voilà, vous donnez
excusez-moi,
le point,
excusez-moi.
Que diriez-vous de prendre 4 500 par mois pour tester des toboggans? Alors, attention, mais... il vous faudra beaucoup voyager, essayer des toboggans aquatiques partout dans le monde et vous munir, comme Manon, d'un calepin dans lequel vous consignerez vos impressions de glissade. Enfin, attention, top, vous vous demandez certainement où est passé Quentin. Eh bien, allez, je vends la mèche. Vous le savez, Quentin adore la radio, il a le service public chevillé au corps, mais il aime encore plus la thune, la maille, la moula, qu'il s'arrange toujours pour récolter par des voies détournées en facturant ses services à droite à gauche. Et en cette fin de semaine, Quentin est en Chine, où il exerce, le temps d'une mission, un des métiers les plus intrigants au monde. D'après vous, Manon, Marie, quel est ce métier? Faux scientifique pour un lobby? Figurant blanc pour une entreprise souhaitant se donner une image internationale? Ou chorégraphe de feux d'artifice?
B. Je trouvais ça fou.
Faux scientifique pour un lobby.
C'est A ou
B. Vous savez quoi, Marie? En plus, si ça se trouve, ça existe. Non, c'est la bonne réponse, c'est la B. Dans l'empire du milieu, certaines entreprises, voulant donner une image d'ouverture, mais rien qu'une image, hein, embauchent depuis plusieurs années des figurants blancs. Vous n'avez rien à faire, juste à porter un costume, avoir l'air sérieux et smart, sourire sur la photo, colloque, conférence, signature de contrat, on a toujours besoin d'un figurant blanc. À l'heure où on se parle, Quentin est vice-président d'une grande entreprise pétrochimique, une sacrée promotion. Victoire de Manon. Vous êtes bien là-dessus, Marie.
Désolée, Marie.
Écoutez ce lancement, vous ne l'avez jamais entendu, il est inédit. Écoutez bien, c'est magnifique. Et si le plein emploi, c'était comme l'amour? Si on avait tort de le chercher à tout prix? On continue de zoomer sur la notion de plein emploi avec vous, Christine Herrel. Alors, soyons un peu factuels, ne serait-ce que pour pouvoir comparer. Quand est-ce que dans l'histoire, la France s'est retrouvée dans une situation de plein emploi, si ça a vraiment eu lieu?
Oui, bah, pendant les 30 Glorieuses, on était au plein emploi dans les années 50-60. Jusqu'au début des années 70, en fait, c'est avec les chocs pétroliers que le chômage a commencé à monter et que du coup, on n'a plus parlé de plein emploi. Mais comme je le disais au début, quand même, il faut être un peu critique quand même avec cette notion de plein emploi des années 50-60, puisque c'était le plein emploi d'une partie de la population. C'est le plein emploi des hommes.
Moins
mais
les femmes,
ensuite,
oui.
On avait les femmes qui restaient à la maison, gardaient les enfants, et donc des taux d'emploi des femmes qui étaient faibles, qui étaient autour de 40%, entre 30 et 50 ans. On a le double. Donc, des taux d'activité qui sont le double.
Je vous écoute, ça paraît tellement simple, cette idée que les femmes ne travaillaient pas et donc que on atteignait le plein emploi plus facilement. On n'en parle pas beaucoup dans les débats politiques. Tout le monde dit on va atteindre le plein emploi, les 30 Glorieuses, c'était merveilleux. Bah, c'était merveilleux, mais il n'y avait pas les femmes. Donc en fait, c'est peut-être pas si simple d'arriver au plein emploi. On n'y serait pas arrivé peut-être même à l'époque si les femmes avaient travaillé.
Oui, on peut se poser la question. Après, c'est vrai que l'environnement économique n'était pas du tout le même non plus, donc c'est toujours difficile de refaire l'histoire. Même avec les femmes, ça aurait peut-être été plus favorable sûrement que maintenant. Mais malgré tout, effectivement, c'est une question quand même fondamentale de se poser la question de savoir quel plein emploi on veut. Et donc, effectivement, quel type, à la fois du point de vue de la qualité, on en a déjà parlé, et puis est-ce qu'on veut que les gens travaillent de 15 à 75 ans, ou est-ce qu'on veut que ce soit des gens qui ont fait des études et qui commencent plutôt vers 25 ans, et avec des départs en retraite qui ne soient pas trop tardifs non plus. Enfin voilà, tout ça, c'est une question. Il y a un choix social derrière la notion de plein emploi. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est naturel.
Mais est-ce que parler comme ça, brandir l'objectif du plein emploi, ce n'est pas oublier les vraies problématiques liées au travail, en fait. D'autres problématiques qui sont peut-être plus importantes que courir derrière cet objectif-là, qui est flou.
En tout cas, c'est pas ce qui est fondamental pour la vie des gens au travail. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe en France, et c'est ce qu'on a fait dans l'ouvrage que vous avez cité, là, que sait-on du travail, quand on regarde vraiment ce qui se passe au travail, ce qu'on voit, c'est que le problème en France, c'est d'abord une qualité de l'emploi qui, effectivement, n'est pas très bonne, une qualité de l'emploi et du travail qui n'est pas très bonne, avec des conditions de travail qui sont souvent difficiles pour une grande partie des salariés, avec un soutien social au travail qui peut être assez faible aussi, c'est-à-dire les gens se sentent pas assez dans un environnement qui est pas assez favorable, où ils n'ont pas assez de soutien de leurs collègues ou de leur hiérarchie, voilà. Des problèmes d'organisation du travail, beaucoup de pression en fait. Les Français se plaignent beaucoup de la pression qu'ils subissent au travail.
C'est propre à la France ou dans d'autres pays
C'est particulièrement marqué en France. En France, on est là-dessus, on se situe vraiment pas bien par rapport aux autres pays européens. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, il y a des vrais problèmes au travail qui sont pas du tout pris en compte quand on parle de cette notion de plein emploi, surtout en plus sans prendre en compte ces aspects plus qualitatifs dont on a pu parler.
Dans un article du Monde publié en novembre 2023, vous expliquez que pour réussir les politiques de l'emploi d'ici 2030, il faut changer de paradigme en mettant l'accent sur la sécurité et la qualité de l'emploi dont vous parlez, tout en soutenant la transition écologique et la cohésion sociale. Quand vous entendez que le gouvernement veut faciliter le licenciement des fonctionnaires, par exemple, vous vous dites qu'ils n'ont pas lu ce que vous avez écrit dans le Monde.
Non, je pense qu'ils n'ont pas lu ce que j'ai écrit dans le Monde. Après, il y a des débats sur toutes ces questions-là, mais effectivement, pour moi, la question de la sécurité des trajectoires sur le marché du travail, elle est très importante. Donc, le modèle de la fonction publique, c'est quelque chose qui permet quand même, effectivement, d'avoir une sécurité des parcours professionnels. Je ne dis pas qu'il faut le généraliser, mais effectivement, le vouloir absolument le remettre en cause, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait critiquer dans cette perspective-là.
Il y a un autre problème dont on parle beaucoup en France, c'est le problème du travail des seniors. L'objectif annoncé par Emmanuel Macron est d'atteindre un taux d'emploi de 65% pour les 60-64 ans d'ici 2030. Il est de 36% en 2022.
Il est très faible, effectivement, au-delà de 60 ans, ce qui est normal, puisqu'on avait un âge de départ à la retraite qui fait qu'il y a quand même une majorité de gens qui essayent de partir à 62, voire 60 pour certains, maintenant, enfin, dans la période récente. Donc, on a vraiment une chute après 60 ans en France, et ce qui renvoie, effectivement, à ces questions d'âge de départ à la retraite. Là-dessus, c'est vrai qu'on est en retrait par rapport à beaucoup d'autres pays européens qui ont des taux d'emploi dans la tranche 60-64 ans qui sont plus élevés, donc... mais là aussi, la question, c'est le constat, on ne peut pas le contester, le critiquer. La question ensuite, c'est comment on y arrive. Et donc, le point fondamental, c'est que si on veut que les gens effectivement continuent à travailler plus longtemps, là aussi, il va falloir travailler sur des questions de qualité, de conditions de travail, de soutenabilité, parce qu'on a beaucoup de gens qui estiment qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à travailler jusqu'à 64 ou 65 ans, compte tenu des conditions dans lesquelles ils travaillent aujourd'hui.
Pourquoi est-ce qu'on a un tel problème pour retrouver du travail quand on a plus de 55 ans aujourd'hui en France ? Est-ce que là encore, est-ce que c'est un problème typiquement français ? Vous nous dites qu'à l'étranger, il y a des pays où, ça, à partir de 55 ans, c'est pas si difficile ?
Alors, c'est toujours plus difficile pour les plus de 55 ans que pour les plus jeunes, mais il n'empêche que effectivement, en France, on a très longtemps considéré que les seniors, les entreprises notamment ont très longtemps considéré que les seniors, effectivement, ils allaient partir rapidement, donc du coup, c'est pas la peine d'investir dans leur formation, par exemple. Donc, du coup, à partir de même déjà 45 ans, on a des taux d'emploi, des taux de formation qui diminuent très fortement dans les entreprises françaises. Donc, du coup, on a des gens qui sont moins formés, sur lesquels les entreprises, globalement, investissent moins, parce qu'elles considèrent qu'elles ne vont pas les garder. Donc, du coup, ce modèle-là, clairement, effectivement, il fait que c'est difficile de rester en emploi. Et ensuite, quand on est au chômage, on va être vu comme quelqu'un qui, de toute façon, ne va pas rester longtemps dans l'entreprise. Et c'est pas la peine, on n'a pas d'investissement.
Mais du coup, le travail des seniors aujourd'hui a plus d'importance dans le plein emploi que le travail des juniors, entre guillemets, enfin des jeunes, de la jeune génération.
C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en fait, quand on considère, ça dépend, encore une fois, ça dépend de quel taux d'emploi, quel plein emploi on parle, mais si on se dit qu'il faut augmenter les taux d'emploi et qu'il faut augmenter les taux d'emploi des catégories pour lesquelles le taux d'emploi est faible, et donc c'est en France les jeunes, les seniors, la question des jeunes et des seniors se pose pas tout à fait de la même manière. Pour les seniors, c'est plutôt une question de maintien en emploi. emploi, essayer de faire qu'en sorte effectivement qu'il continue plus longtemps. Pour les jeunes, en fait, on peut toujours... Il y a des pays dans lesquels les taux d'emploi sont beaucoup plus élevés, mais c'est parce que les jeunes travaillent beaucoup à temps partiel. Les étudiants, il y a des pays comme le Danemark, par exemple, qui est un pays où ça fonctionne plutôt bien, mais la norme au Danemark, c'est quand vous êtes étudiant, vous travaillez à temps partiel. Mais même si c'est un temps partiel de 5 heures, de toute façon, vous êtes en emploi. Donc, du coup, les taux d'emploi sont plus élevés. Voilà. Alors, en France, on pourrait se dire, on va pousser à tout prix à l'emploi des jeunes, y compris à temps partiel, même court. C'est pas forcément ce qui se passe, même si on sait que, par ailleurs, il y a quand même de plus en plus de jeunes qui sont en emploi. Il y a l'apprentissage, et puis il y a aussi les emplois un peu alimentaires qui se développent quand même.
Mais est-ce que pour autant, il suffit vraiment en France de traverser la rue pour trouver un job quand on est jeune?
Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'après, il y a plein de phénomènes qui peuvent entrer en ligne de compte aussi. Il y a l'aspect compétences, mais il y a aussi ensuite des phénomènes de discrimination pour certaines populations. On le sait bien, ça a été testé dans des études empiriques, en éco, en sociaux, etc. Donc voilà, donc c'est pas toujours si facile que ça de trouver un emploi.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, justement, on se demandait à quoi ressemblait le plein emploi. Eh bien, à la Suisse. 3,9% de chômage seulement, c'est ce qui s'appelle le plein emploi. On le félicitera, même s'il n'a pas grand-chose à voir avec cette belle performance économique. Yann Marguet, le plus lausannois des humoristes, va nous rejoindre. Mais d'abord, Manon, vous me disiez en antenne, je vais lui montrer à la KU ce que c'est que le journalisme. Le moment est venu.
Ça va pas.
On avait dit ça tout à l'heure. L'heure de votre veille sanitaire, tout ce qui agite les réseaux sociaux décryptés par vous. Manon, aujourd'hui, un étrange mouvement a attiré votre attention sur TikTok.
Ils ont la trentaine, ils voyagent, ils sont célibataires et ils cherchent des meufs. Je vous présente les Passport Bros, en français, les frères avec des passeports. Et ces Passport Bros ne voyagent pas n'importe où pour pécho. Non, eux, ils vont en Amérique latine, en Europe de l'Est ou encore en Asie. Leur objectif, partir à la rencontre de femmes qu'ils estiment moins féministes que dans leur pays natal, car ils en ont marre de cette mentalité. Ils estiment que les femmes occidentales deviennent trop revendicatrices, qu'elles ne remplissent plus leur rôle dans le foyer, voire qu'elles sont méprisantes. Du coup, direction des pays où les femmes vont les traiter comme ils le méritent, autrement dire que des hommes, des vrais. Car vous l'avez compris, ces Passport Bros sont de bons gros masculinistes, comme il en existe malheureusement beaucoup. Et comme la majorité des mascus, ils affichent fièrement leurs idées sexistes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les Passport Bros sont très présents sur TikTok.
The three stages of being a passport bro. You're gonna have so many life-changing experiences during this step, trust me.
Là, par exemple, vous entendez le maître à penser de ces Passport Bros, l'américain Digital Bromad, 500 000 abonnés sur TikTok, qui explique comment devenir un bon Passport Bros. Il a fait son business en proposant des tutos et des conseils à destination de son public sur comment trouver des meufs à l'étranger. Il montre ses matchs sur Tinder et dans quel bar il sort, et sans vergogne, il se filme en date avec une Philippine, en boîte avec une Thaïlandaise, et il va même en Corée pour espérer, je cite, trouver une épouse traditionnelle. C'est vraiment rempli de masculinité toxique. Et dans une vidéo vue plus de 300 000 fois, il explique pourquoi il fait ça. Il dit que c'est devenu impossible pour lui de dater des femmes aux États-Unis car on leur apprend à détester les hommes. Alors que dans les autres pays, elles sont bien éduquées au patriarcat et qu'elles sont là pour aider et sécuriser leurs partenaires masculins. Et puis il conclut en disant que si les femmes américaines sont célibataires, si les hommes américains célibataires, c'est tout simplement à cause des femmes.
Tout ça me donne pas trop envie de partir en vacances avec lui, Manon.
Et Mandon, vous vous détez bien. En fait, ils font partie de cette mouvance des incels, ces célibataires involontaires, une sorte de sous-culture du masculinisme. On va en faire une émission en mai, mais je vous résume leur mode de pensée. Ce sont des jeunes hommes persuadés que s'ils sont seuls, c'est à cause des femmes. Ils cultivent donc une haine de la gente féminine qu'ils alimentent en plus avec des idées extrémistes sur les réseaux. Ils sont très nombreux sur les forums Reddit et 4chan, par exemple. Sauf que petit à petit, ils s'immiscent aussi sur les plateformes les plus mainstream, la preuve donc avec ces fameux Passport Bros sur TikTok. Et c'est très dangereux, car en plus de faire prospérer leurs idéologies misogynes auprès de millions de personnes, ils participent aussi à un racisme totalement décomplexé.
C'est-à-dire, Manon ?
Eh bien, on parle quand même d'hommes occidentaux qui partent dans des pays en développement où ils estiment que les femmes leur seront plus soumises, du bon vieux colonialisme. Et pour se faire cette opinion, ils s'appuient sur des stéréotypes racistes, comme le fait que les femmes asiatiques seraient plus dociles et souriantes, ou que les femmes colombiennes seraient pauvres et que du coup, elles chercheraient un mari avec de l'argent. Et puis, il y a aussi un côté hyper sexualisant qui est dérangeant. Sur TikTok, la majorité de ces passport bros présentent leurs dates et leurs rencontres comme des femmes trophées. Ils font des gros plans sur leur décolleté ou sur leurs fesses, en profitant du fait qu'elles ne parlent pas la même langue qu'eux. Du coup, elles ne comprennent pas forcément ce que dit le TikToker. Elles rigolent à côté. C'est humiliant et dégradant pour elles. Vraiment, rien ne va dans cette mouvance des passport bros. En fait, c'est une sorte de déviance du tourisme sexuel, mais cette fois-ci mis en scène dans des vidéos sur les réseaux. Alors eux, ils précisent bien ne pas payer pour coucher avec des femmes et que tout passe par leur charme légendaire, évidemment. Mais bon, ça n'enlève rien à la toxicité et au sexisme de leur démarche. Le problème, c'est qu'ils en sont fiers et qu'ils sont regardés par des centaines de milliers de personnes. Ils ont l'impression d'être valorisés dans leur petite masculinité d'homme viril et de montrer que la domination masculine n'est pas perdue. C'est leur concours de bip aux millions de vues et franchement, il faudrait que ça cesse.
Merci Manon. Alors je sais pas si on atteindra un jour le plein emploi, mais la pleine connerie, on y est visiblement déjà. Zoom Zoom Zen continue avec l'édito économique du professeur Marguet qui va nous expliquer comment il le voit, lui, le plein emploi. Juste après, Georgia Smith et Jay Huss, Feeling sur Inter.
Any other day, any other time, I'll be on my way. There was a time where you tried and you said, why would you fight what was inside? That wasn't part of the plan, I know, there should go. Looking for some reasons, tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night home. I just need one reason, I know there's nothing wrong with this. Hard to pretend it's not what I want. Way too close to read my mind.
I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, girl. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
I'm liking the way that you talk to me now. You know what you're doing, don't look in my eyes. All at one time, when I say what I say, when the run was over. Only been two times that we've done what we did. When I put it on you, when I put it on you. Looking for some reasons, tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. I just need one reason. I know there's nothing wrong with this. Hard to pretend it's not what I want. I want you to read my mind.
I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
In my feelings, I'm feeling my sorrow. I want you today, I want you tomorrow. I want you to stay, I'm not gonna borrow. I steal you forever, I take you Morocco. Me and you together, you're driving me loco. I wanna be with you, I don't wanna be solo. J-House, aka Ellie Zolo. When you call me, I'll be there coming pronto. But I've kept it G, I never spent a cobble. Make a splash and a dash, you know that's the motto. She's driving me, I'm inside her motto. Your usna feels like I just won the lotto. Touching me, she feeling my muscle. I spend time with you, I'm pausing my hustle. Pour something in my cup, me and you are a couple. Bad man, but sometimes I wanna cuddle.
I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, girl. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Si le plein emploi est dur à atteindre, ces salaires, en revanche, sont presque pleines. Même si, pas assez, pour que je n'ai pas à rappeler qu'il reste encore 136 places à ce jour pour le voir au Lucernaire à Paris jusqu'au 2 juin. Dépêchez-vous et accueillez, sans plus attendre, Yann Marguet.
Tout commença lorsque les grands sujets furent forgés. Trois furent donnés à la droite. Le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. À la gauche, on en donna quatre. La santé, l'environnement, le social et l'éducation. À l'extrême droite, qui, par-dessus tout, désirait le pouvoir, on ne donna malheureusement que l'islamisme radical. Quant à l'extrême gauche, pourtant animée par les intentions les plus nobles, il ne resta que celui de s'excuser pour Jean-Luc Mélenchon. Mais dans les flammes de la montagne du blabla fut forgé dans le plus grand secret un sujet unique. Un sujet pour les gouverner tous et dans le bullshit les lier. Le plein emploi. Oh, le plein emploi, l'apex du succès politique potentiel, la médaille d'or du 110 mètres promesse, l'Oscar du meilleur programme de campagne, l'assurance d'une place au Valhalla politique pour celui ou celle qui parviendra à l'instaurer, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas malgré toutes les combines et manips et ruses des 300 derniers gouvernements pour enrayer le chômage. Il revient chaque mois avec ses chiffres. J'ai les chiffres. C'est la Salomé Saquet des problèmes socio-économiques parce qu'on le sait, Salomé, elle a les chiffres. Alors déjà, c'est quoi le plein emploi hein? Parce qu'il y a des versions, il y a la sauce macroniste basée sur une méritocratie protestante portée avec un éclat qu'on n'avait pas vu depuis longtemps chez un dirigeant.
À part peut-être Madame Thatcher.
Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le modèle américain aussi, par exemple, où le chômage est maintenant contenu entre 3 et 4%, mais où à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» on peut répondre. Alors je dis « Hello guys, what's up ?» toute la journée chez Uniqlo, je vis mon rêve, sans oublier le système nord-coréen, où si tu bosses pas, on te zigouille, ce qui favorise quand même vachement le taux d'activité. Mais revenons à nos Macron, puisqu'il habite à 32 minutes de la radio en transport public, ça nous concerne un peu plus. Macron qui ne serait évidemment pas président de la République s'il n'avait pas également promis le plein emploi, le précieux, et qui a donc décidé de son côté, pour résoudre le problème des gens qui n'ont pas de travail, de s'attaquer aux gens qui n'ont pas de travail. La logique est implacable parce qu'un fort taux de suicide vaut toujours mieux qu'un fort taux de chômage. Coupons donc dans les droits des plus précaires. Pôle emploi s'appelle désormais France Travail. Il manque qu'une virgule entre les deux mots et un point d'exclamation à la fin pour recréer le tatouage que Gabriel Attal a au bas des reins. France Travail, putain ! T'étais pilote de ligne, bah tu conduisais un truc, fais chauffeur Uber. T'es dans un secteur en tension, infirmière, institut, auxiliaire de vie ou toute autre personne avec qui François Ruffin discutait pas plus tard que l'autre jour dans sa circonscription à Amiens. Et bah accroche-toi parce que si tu passes au RSA, on va te contrôler deux fois plus. Tu t'es fait virer à 55 ans, et ben sache que Bruno Le Maire veut diminuer ton temps d'allocation. Tu croyais quoi, que t'allais pouvoir débloquer du temps pour écrire un roman érotique? Non. Objectif plein emploi, coûte que coûte, dussiez-vous en crever. On dirait qu'ils veulent, c'est construire un château de cartes qui tient pas bien, prendre la photo pour montrer qu'ils l'ont fait et se barrer avant qu'il s'effondre. Dans tout ce que j'ai lu en préparant ce sujet, Mathieu, pas une mention du revenu universel de base ou de la taxe Tobin, pas une considération sur les conséquences de l'IA, de la robotique, du dérèglement climatique, des pandémies et des guerres sur le marché du travail, sur le concept même de travail, non. Taux de chômage, PIB, croissance, que des vieilles recettes, on dirait la cuisine des mousquetaires, sauf qu'au lieu de sucer le cul d'un ortolan, on suce toujours plus le cul des riches et des entreprises aux dépens des plus précaires, et on se cache même plus avec une serviette pour le faire. Voilà, c'était ma vision du plein emploi en France. J'espère que cette chronique vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous très très vite pour un tuto, cette fois, où on apprendra à interpréter les chiffres du chômage, comme les feuilles du thé ou le marc de café au fond des tasses. Vous verrez, c'est très très simple. En attendant, je vous dis à bientôt mes chéris, et surtout, n'oubliez pas de travailler.
Merci beaucoup Yann Marguet, le Che Guevara suisse. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Christine Herel d'avoir décrypté pour nous ce piégeux concept de plein emploi. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail.
C'est exact. Merci, oui, c'est ça.
Merci à vous. Merci à tous les amis, Manon Mariani, Cyril Lacarrière et Marie Cahu. Un gros bisou à l'ami Quentin. En régie, je salue Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou, grâce à qui je pose chaque jour de si bonnes questions à l'invité. Et dites-vous que quand c'est pas le cas, c'est juste que j'ai zappé des questions. À la technique aujourd'hui, c'était Benjamin Wagon. À la réalisation, il serre les dents à deux doigts du burn-out. Voilà déjà 4 jours qu'il est revenu de Formentera. Après un tout petit break de seulement 2 semaines, il compte donc les jours avant les prochaines vacances qui sont dans 7 7 jours. Courage, Ghislain Fontana. Demain, on zoomera sur le phénomène de la dating fatigue ou quand les applications de rencontres finissent par nous lasser. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'invités? Est-ce que nos témoignages ne suffiraient pas? Peut-être, mais par acquis de conscience, l'écrivaine Eliette Abécassis sera avec nous.
Et Zoom Zoom Zen en podcast, c'est quand vous voulez sur l'appli Radio France. Juste après les infos, suite des nuits d'Inter avec Very Good Trip.